Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans toute une vie, à la découverte de vies en forme de portraits sonores d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et les suivantes. De sa Jamaïque natale à Marseille, en passant par Harlem, Paris et Moscou, il a traqué le bouleversement du monde en poète avant de trouver son territoire sur les quais du Vieux-Port de Marseille. Michel Pomarède et François Test partent aujourd'hui sur la piste de Claude Macquet, toujours en mouvement.
Je n'ai rien à vous donner que mes chants. Toute ma vie, j'ai été un troubadour vagabond, me nourrissant surtout de la poésie de l'existence. Et tout ce que je vous offre ici, c'est l'essence poétique de mon expérience.
Toute une vie. Claude Macquet, vagabond et poète. Itinéraire d'un bourlingueur qui vécut une romance avec Marseille. Michel Pomarède, François Test.
Un charlatan venu des Antilles est arrivé dans ce pays, l'Amérique. Plein d'idées dépassées sur la société. Et pourtant, en 10 ans, il a éveillé la conscience sociale des masses noires, davantage qu'aucun leader n'avait pu le faire jusqu'alors. Quand les Noirs désireront une nouvelle orientation de leur groupe, ils la créeront.
En fait, je dirais que c'est vraiment un personnage qu'on a des difficultés à classer dans une case. Et multifacette, bien sûr.
Et, le journaliste marseillais Armand de Cox.
Justement, c'est pour cette raison que la personne de Claude Macquet me fascine. C'est qu'il n'est pas capturable ni dans un mouvement, ni dans un milieu identitaire. Je pense même que Macquet, aujourd'hui, il aurait beaucoup du mal avec tous ces mouvements très essentialistes, disons. Et Macquet, il était là où les choses devaient se faire, où les choses devaient changer, devaient être bousculées. On peut même dire que Macquet et sa bande sont vraiment des initiateurs du mouvement punk, même presque. Voilà, Macquet, c'était un peu tout ça. C'est vraiment un avant-gardiste, un visionnaire et surtout un passeur.
Monsieur Verdeil, vous êtes réalisateur. Vous avez consacré un film à Claude Macquet que vous avez tourné en 2021, intitulé « De Harlem à Marseille ». Donc vous le faites partir de Harlem, mais en fait, Claude Macquet, il est natif de la Jamaïque. Il est né en 1889 et famille paysanne, mais il est au contact des lettres très vite.
Effectivement, son père est un fermier, mais un fermier reconnu, on va dire, un chef de village. Il éduque ses enfants et son grand frère est professeur d'école et même directeur d'une école et très instruit et c'est un libre penseur qui s'intéresse aussi à la philosophie. Donc finalement, il va instruire son petit frère et le mettre au contact de la littérature anglaise, hein, c'est une colonie anglaise. Donc de Shakespeare et de Bernard Shaw également. Et tout ça va plonger le petit Claude dans une ambiance littéraire. Voilà. Donc il est au contact des paysans puisqu'il vient de là. Mais il est instruit, il va à l'école. Il va aussi être policier, il va faire différents petits métiers. Donc il a une expérience riche et variée en Jamaïque. Son instruction l'amène à se lancer dans la poésie. Il se lance là-dedans, mais il va plus loin parce qu'il se confrontait au peuple jamaïcain qui parle beaucoup de patois différents, de mélange des langues. Il décide de faire de la poésie en patois. Et ça, c'est une originalité. Il est précurseur pour cela. Et il rencontre un ethnologue anglais qui s'appelle Walter Jekyll, qui l'encourage à développer sa poésie en patois. Et de telle sorte qu'il va faire une publication à cette époque-là de poésie en patois qui va lui permettre d'obtenir une bourse.
J'étais venu par faire mon éducation. Mais après quelques années à l'université du Kansas, j'avais été pris du désir de courir le monde et d'en découvrir le sens. L'esprit nomade, ce démon de certains poètes, s'était emparé de moi. Je quittais l'université. Je n'avais aucun désir de rentrer au pays. Je ne revenais pas sur ce que j'avais fait, mais je nourrissais toujours un besoin d'expression créatrice. Je désirais produire quelque chose de neuf, quelque chose qui restitue esprit et l'accent d'Amérique. Qu'entre sa force énorme et lancinante, son énergie, son pouvoir et sa grandeur considérable, qu'entre sa violence qui consumait mon corps noir, j'allais élever la voix afin de faire de ma révolte un hymne.
Donc il va obtenir une bourse, et cette bourse va lui permettre de partir faire ses études aux États-Unis.
Mais pas des études de lettres, des études d'agronomie.
Des études d'agronomie, parce que dans un premier temps, il s'agit de peut-être reprendre l'exploitation familiale. Donc il part aux États-Unis, effectivement, au Tuskegee Institute, qui est une université notamment réservée aux Noirs, et pour apprendre, en tout cas, pour lui, l'agronomie. Mais ça va pas finalement trop l'intéresser. Et il est toujours, il a toujours l'ambition littéraire et de la poésie, et donc il va partir à New York, à Harlem, pour essayer d'assouvir cette ambition-là.
Mais avant, peut-être, Mathieu Verdat, il faut quand même dire que tout ce qu'il dit, c'est le sud des États-Unis, et Claude McKay est confronté au racisme, peut-être pour la première fois de sa vie. Il a 23 ans.
Ce qui lui donne envie de bouger, c'est effectivement ce racisme qui découvre la Jamaïque est une colonie anglaise, donc il y avait une forme de racisme, mais il y a une moins forte proportion de blancs en Jamaïque, et lui vient d'une famille quand même aisée, intellectuelle, donc il avait moins cette peur, on va dire, et il constatait moins le racisme frontal au quotidien. Alors qu'aux États-Unis, voilà, ça fait partie de la loi. Il y a la ségrégation, il y a les lois Jim Crow, il y a les lynchages, il y a le Ku Klux Klan, et lui, il se prend ça de plein fouet. En 1919, c'est également une année importante dans le combat des Noirs, parce que c'est ce qu'on appelle le Red Summer, c'est-à-dire des grandes émeutes anti-Noirs aux États-Unis, après la Première Guerre mondiale, où les Blancs suprématicistes ne veulent pas que les Noirs qui reviennent de la Première Guerre mondiale s'affirme, parce qu'ils ont découvert une forme de liberté en Europe. Et donc, il y a beaucoup de confrontations, d'émeutes, et donc de combats très violents dans différentes grandes villes des États-Unis. Cet événement va inspirer à Claude McKay un de ses poèmes les plus marquants, qui s'appelle « If We Must Die », qui est une réponse politique à ces événements. Et c'est ça qui va permettre un peu son entrée en littérature et une forme de reconnaissance quand il va arriver à New York.
If We Must Die is the poem that makes me a poet among colored Americans.
La voix de Claude McKay.
If we must die, let it not be like hogs hunted and penned in an inglorious spot, while round us bark the mad and hungry dogs, making their mock at our accursed lot. If we must die,
mourir peut-être, mais pas comme des porcs, chassés et parqués en des lieux peu glorieux. Autour de nous aboient les chiens fous et affamés, se moquant de notre sort maudit. Mourir peut-être, mais d'une mort qui soit noble. Que notre sang précieux ne soit pas versé en vain. Et bien que morts, les monstres eux-mêmes que nous défions seront en train de nous honorer. Oh mes frères, affrontons l'ennemi commun. Ils sont bien plus nombreux, montrons notre courage. Et pour 1000 coups portés, donnant un coup mortel. Que se passe-t-il cependant devant nous ? Hommes face à la meute lâche et meurtrière, au mur, acculés, prêts de mourir mais ripostant.
Ce poème, c'est le premier acte politique public de McKay. Il se fait connaître avec ce poème. Justement, il y a une reconnaissance dans les revues littéraires. Ses mentors en littérature quand ils lisent ce poème, ils disent « Ah voilà, ça y est, tu as produit une grande œuvre ». Et là, parce que là, il se sent vraiment poète. Voilà, il est arrivé, il a accédé au statut de poète.
Je songeais à mon propre personnage. Moi, un serveur qui attendait de jouer mon rôle de poète. Il y avait 7 ans que j'avais quitté la Jamaïque pour les États-Unis, laissant derrière moi une réputation de poète insulaire. C'est pendant ce jour-là que le sonnet « If we must die » sortit de moi comme un coup de feu. Et le peuple noir unanime me sacra poète à cause de ce texte. De fait, cette immense tribu fut la seule évaluation qu'il fit jamais de ma poésie. C'est le seul de mes poèmes que je lus aux membres de mon équipe, qui furent tous enthousiastes. Même le 4e serveur, le plus dingue et le plus irresponsable de la bande, celui dont toutes les arrière-pensées et les gestes indiquaient une sensualité exacerbée, même celui-là versa des larmes.
Now the Capes tell me up in Harlem way, they got a brand new sender, and they believe it's in the groove. It's got the jitterbugs all the swinging, and them hip chips old and tender, they believe it's in the groove.
Mathieu Verdet, est-ce qu'il vide sa poésie?
Alors, bien sûr que non, en fait, on va dire qu'on sait bien que les poètes, vivre de la poésie, c'est quand même quelque chose qui est très difficile. Mackay, il va vivre de plein de petits métiers, il va être serveur dans des trains, il va essayer d'ouvrir un restaurant, il va travailler dans les chemins de fer, il va même travailler sur un bateau pour venir en Europe. En tout cas, il exerce un certain nombre de petits métiers. Et il travaille dans des revues littéraires quand même. Ça, c'est à la fois ce qui lui permet de gagner un peu d'argent, mais surtout de pouvoir rencontrer les intellectuels new-yorkais. C'est des journaux de gauche, voire d'extrême gauche, le Liberator, New Masses. Et c'est là qu'il rencontre notamment Max Eastman, qui est un des rédacteurs en chef du Liberator, et qui va le soutenir. Ils seront amis vraiment toute leur vie, et tout au long de sa carrière, il sera aidé par ce Max Eastman, qui lui-même est un écrivain. Et dans ses revues, il parle de littérature, de poésie, de spectacles vivants, ce qui amène Mackay à aller voir des spectacles, à écumer à Harlem, le milieu de la nuit. Il va aussi bien voir des opéras, que des spectacles de cabaret, que la musique. Donc, il a une bonne vie culturelle et une bonne connaissance du milieu culturel et littéraire.
Marcos Chiavi words come to pass. Marcos Chiavi words come to pass.
Pourquoi est-ce qu'il s'oppose à Marcus Garvey, qui est jamaïcain comme lui, et qui est un des précurseurs de la lutte contre les lois ségrégationnistes?
Marcus Garvey, c'est un des leaders noirs les plus importants du XXe siècle, bien qu'il soit un petit peu oublié aujourd'hui. Il est surtout connu des amateurs de reggae, parce qu'il a une grande place dans le rastafarisme. Garvey, à cette époque-là, c'est un Jamaïcain, mais il est à Harlem, et il harangue les foules, et il fait des grands discours, et il a un public finalement mondial, puisqu'il fait un journal, The Negro World, ce journal est publié dans le monde entier. On peut le trouver en Afrique, en Europe et aux États-Unis, bien sûr. D'autre part, il monte une compagnie maritime qui s'appelle la Black Star Line. L'idée, c'est que les Noirs peuvent avoir leur propre compagnie, et cette compagnie peut ramener des Afro-Américains jusqu'en Afrique. Bien sûr, le but, c'est pas de ramener tous les enfants, les descendants d'esclaves jusqu'en Afrique, mais voilà, c'est de dire qu'ils peuvent s'emparer d'une part de l'économie, d'autre part, retourner en Afrique si ça les intéresse. Donc, ils participent à ce grand mouvement qu'on appelle le retour en Afrique. Donc, lui, c'est un Jamaïcain, comme Claude Mackay, mais Mackay est beaucoup plus libre. Marcus Garvey est plus dogmatique, voilà, il est plus politique aussi. C'est un politicien, alors que Mackay, c'est un poète, en fait. Donc, il se place pas du tout dans la même catégorie.
Quel était donc mon principal problème psychologique ? C'était celui de la couleur. la conscience de ma couleur était le fondement de mon incapacité à rester en place. Et c'était une chose à laquelle mes compagnons de voyage blancs pouvaient apporter leur sympathie sans pouvoir totalement la comprendre. Car ils n'étaient pas noirs comme moi.
Pourquoi est-ce qu'à un moment, Claude McKay quitte New York, ce creuset de révolte et de rencontres noires pour aller à Londres? Qu'est-ce qui le motive?
Alors qu'il travaille dans ses revues de gauche et d'extrême gauche, les revues littéraires et un peu politiques à New York, il fait un certain nombre de rencontres et de personnes qui veulent l'aider à partir en Europe. Grâce à cela, il va pouvoir aller à Londres et il va d'abord étudier dans des clubs littéraires où il va se passionner, étudier Marx. Il dit bien qu'il se passionne pas parce que c'est pas passionnant, mais qu'il étudie Marx parce que c'est une grande force de l'époque, et encore aujourd'hui. Et il fait des articles autour des grèves des marins dans les ports. Et voilà, il est plutôt militant. Il va à ce moment-là développer sa culture de gauche, parce que pour pas dire communiste, parce qu'il se sent pas vraiment communiste, mais il va étudier le marxisme et travailler dans ces milieux-là.
Si Londres n'avait pour moi aucun charme, c'était un ferment politique extraordinaire. Tous les plus brillants et rigoureux ténors de l'extrême gauche venaient parler à l'International Club. Et j'assistais à la plupart de leurs conférences. L'International Club était plein d'animation, avec ses penseurs doctrinaires et dogmatiques de la gauche radicale, socialistes, communistes, anarchistes, militants syndicaux, membres d'une grande centrale ou simples syndiqués, harangueurs de foule, rimailleurs, gribouilleurs, rédacteurs de ces petits périodiques de gauche qui font florès à Londres. Leurs contacts me stimulaient, élargissait mes conceptions de la société et je me plongeais dans la lecture de Karl Marx. Ces gens croyaient que Marx était le véritable prophète d'un nouvel ordre social. Et s'ils ne se trompaient pas.
Renaud Bouc, vous êtes le directeur des éditions Héliotropisme ici à Marseille. On vous doit la publication de Marseille, Romance in Marseille de Claude McKay. Vous avez des photos que vous allez intégrer dans l'autobiographie de Claude McKay. Et là, on a quoi, le diplôme de bon communiste de Claude McKay, c'est quoi ça?
Alors ça, c'est sa carte du parti qu'il obtient en 1922 lorsqu'il arrive en Union soviétique. Et donc, il arrive là parce qu'il veut juste observer. Il a envie de rendre compte un petit peu de ce mouvement. La révolution russe l'intéresse beaucoup parce qu'il pense qu'il y a là une brèche pour la reconnaissance des droits civiques des populations noires dans le monde entier. Voilà. Alors, il est très vite déçu, mais en même temps, il est accueilli comme un héros. Il est célébré, alors qu'il n'est pas invité à proprement parler par le Parti communiste américain, il se faufile et arrive à faire des discours, notamment lors du 4e congrès de l'Internationale communiste. Il rencontre Trotsky, voilà, là on a une photo où par exemple il est invité par Trotsky sur une base militaire. Trotsky lui dit « Tu vas voir la grandeur militaire de notre pays, on va t'amener faire un tour en avion. » Et donc on a la photographie de Claude McKay dans un avion. Voilà. Là, c'est avec Boukharine et Zinoviev. Il rencontre pas mal de dirigeants, de hauts dirigeants soviétiques. Et donc il est quand même assez distant parce que même dans ses discours, il le dit dans un sacré bout de chemin, il y a cette volonté de s'affirmer comme poète et non comme politique. Voilà. Jusqu'à, on va dire, la fin des années 20, Claude McKay se représente ou se veut avant tout poète.
Ma mémoire garde l'empreinte de l'étrange Kremlin, de ses salles, symbole de la volonté du tigre, des instruments tsaristes d'une loi sans intelligence. Et souvent maintenant, mes nerfs vibrent d'émotion quand, dans ce lieu couvert d'or, j'ai pu sentir et voir la simple voix et la présence de Lénine. Je leur dis que c'était pour moi un grand honneur de voir les réalisations de leur grande révolution. Que je me sentais insignifiant et impuissant devant quelque chose d'aussi extraordinaire. Que j'étais venu en Russie
pour apprendre, pour voir de mes propres yeux et essayer de décrire une petite partie de ce que j'avais vu. Invariablement, on me demandait où en est la révolution en Amérique. Quand je répondais qu'elle n'était pas pour demain, l'auditoire n'appréciait guère.
Je quitte le monde communiste et les rencontres avec Trotsky pour arriver dans les cabarets de Montmartre. Est-ce qu'il s'y sent bien, Claude Maquet, à Paris, Mathieu Verdeil?
Après la Russie, il passe par Berlin et il arrive finalement à Paris. Quand il a quitté la Russie, il était malade. Hein. Au bout de 6 mois, dans le froid, il était déjà faible et fatigué. Quand il arrive à Paris, il y découvre une ambiance cosmopolite. Il dit qu'il se sent presque en vacances après la dureté du régime de Moscou. Donc il s'y sent bien et il fréquente les intellectuels, Hemingway, les cercles des mécènes, Gertrude Stein, qu'il n'aime pas trop. Mais voilà, il rencontre un tas d'artistes et des peintres. Il va poser pour les peintres parce que, comme on l'a vu, c'est un vagabond et qu'il a besoin de travailler. Il va poser nu, exactement, et il dit que les ateliers sont très froids. Et il semble, ce n'est pas le seul à se plaindre de ça, il semble qu'à l'époque, il y avait des problèmes de chauffage à Paris, beaucoup. Et donc, il tombe à nouveau malade, en fait. Et on lui conseille d'aller se soigner dans le sud de la France. Par chance, il a une amie, Louise Bryant, qui est à la fois amie et mécène, avec qui ils ont des grandes conversations littéraires, et qui va lui donner de l'argent pour aller travailler dans le sud. C'est à partir de là qu'il fera sa rencontre avec Marseille, et voilà, donc il va tomber amoureux de Marseille.
Venant de Gênes ou de Valence, les bateaux par les clairs matins. Tout le long des quais se balance, parlant d'aventures d'Estelle. Et tous les enfants de Marseille, sous un ciel bleu, un soleil d'or, sans que leur maman les surveille, viennent jouer sur le vieux port.
Le quartier du Vieux-Port exhalait une odeur écœurante de vie dense, mêlée, entassée, tournant dans un cercle de misère suffocante. Et pourtant, tout semblait s'y trouver bien à sa place et s'ajuster tout naturellement. Les bistrots et les boutiques d'amour, les filles et leurs macs, les clochards, les chiens et les chats, chaque élément contribuait d'une façon essentielle et colorée à créer cette chose indéfinissable qu'on appelle une ambiance. Aucun autre décor n'aurait pu mieux convenir aux gars du bord de mer. À croire que tous les laissés pour compte de toutes les mers du monde avaient dérivé jusqu'ici pour passer la journée étendue au soleil.
Le monde entier passe et repasse dans les rues de notre cité. Des étrangers de toutes races sont venus pour la visiter. Mais pas un n'a quitté Marseille sans admirer ce beau décor. Cette aquarelle sans pareille, les vieux quartiers et le vieux port.
Est-ce que vous pourriez vous présenter et me dire où est-ce qu'on est?
On est à la Samaritaine, la brasserie mythique du vieux port, pas très loin de l'endroit où Claude Maquet, ou du moins les personnages de Claude Maquet, passaient leur vie. Mais voilà, donc vu. On est à la Samaritaine, qui est quand même une institution marseillaise. Et pour me présenter, bien écoutez, je suis Armando Cox, je suis journaliste, anthropologue et théologien de formation, mais je m'y regardais plutôt plus comme un acteur culturel marseillais.
Donc cette institution marseillaise, Armando Cox, la Samaritaine, elle date de 1910, donc on peut imaginer que Claude Maquet ait bu des verres ici.
On peut tout à fait l'imaginer que Claude Maquet a bu des coups ici, d'autant plus que c'est vrai que c'était un axe aussi, il y avait les trams qui passaient hein, par ici, donc c'était quand même un coin très très fréquenté, et en plus, en face, il y a l'hôtel, un des hôtels où Maquet avait habité, d'ailleurs Hemingway aussi avait habité le même hôtel, hein, d'après les renseignements. Donc c'est vraiment ces coins qui constitue un peu le théâtre, la scène où s'est passée, plus particulièrement la scène du banjo du livre.
Les gars de la bande du port partageaient leurs jours entre la jetée et les docks, et leurs nuits entre la place aux tapeurs et la fosse. La plupart des blancs, surtout les nordiques blancs, semblaient avoir coulé jusqu'au fond, sans espoir d'en sortir, sous le poids de l'alcool. Et rien d'autre ne semblait compter pour eux. Ils étaient sales à puer, pleins de poux, et ils ne montraient aucun désir de se nettoyer. Avec les noirs, c'était différent. On aurait dit qu'ils prenaient seulement des vacances. Ils pensaient toujours à faire la fête, et s'ils ne semblaient pas avoir été spécialement conçus pour ce cadre, ils ne gâchaient pas le tableau, mais plutôt ajoutaient une tonalité insouciante et généreuse qui en augmentait l'attrait.
En fait, le socle documentaire de la fiction de Claude Mackay, le banjo, c'est exactement ces quartiers de la fosse qui étaient les quartiers qui réunissaient aussi bien les nervis marseillais, le mafra corse, italien, le ouest africain qui étaient là aussi, dont certains étaient là depuis la Grande Guerre, donc la Première Guerre mondiale. Et il y a aussi des marins du monde entier qui rêvaient de passer par Marseille. Donc, le monde dans lequel Mackay a décrit, en tout cas du moins dans son roman, était composé un petit peu de ces populations.
Ça, c'est les hommes.
Les populations et des femmes. Et enfin, de dire aussi, c'est un quartier aussi un quartier réservé. Réservé à quoi ? Ben, à la prostitution.
Le Vieux-Port était toujours très animé. Bagarre entre hommes ou disputes entre prostituées. Marins dévalisés. Coup de feu tiré par des particuliers. Ou par la police. Un Sénégalais possédait un grand café sur le quai et tous les Noirs s'y retrouvaient avec leurs copains et leurs filles.
Emmanuel Logier, responsable de la médiathèque du patrimoine du musée d'histoire de Marseille.
Alors c'est un quartier, le quartier de la Fosse, qui n'existe pas à Marseille. Le quartier de la Fosse, je pense même que c'est Mackay qui a inventé cette expression. Il le dit d'ailleurs dans Banjo. Il le dit, ils appelaient le quartier réservé la fosse, avec la même affection bourrue qu'ils appelaient leur bateau, leur gonzesse, le comparant à une femme facile. Je n'ai pas eu en main la traduction originale du texte Banjo. Je ne sais pas d'où sort le terme exact, mais en fait, on parle du quartier de l'Hôtel de Ville, du quartier Saint-Jean, plusieurs autres quartiers qui, en effet, à l'heure actuelle, sont totalement détruits suite aux destructions nazies en 1943. On a quand même énormément d'iconographie sur ce quartier, par les peintres, par les photographes aussi. Ce quartier vivant qui abritait le quartier réservé, c'est-à-dire le quartier réservé à la prostitution.
Et à l'époque, ce quartier, c'est beaucoup de gens, c'est une grande superficie. Et c'est quoi l'habitat ?
Aujourd'hui, c'est le quartier qui entoure l'hôtel de ville historique. On est sur un peu moins de 10 hectares. C'est pas très grand, finalement. Et on a surtout un habitat qui est extrêmement dense. C'est le cœur historique de Marseille, c'est-à-dire le quartier le plus ancien. Les fouilles archéologiques qui se sont faites dans les 30 dernières années ont prouvé la présence d'habitats grecs, c'est-à-dire de moins 600 avant Jésus-Christ. Donc c'est vraiment le lieu de création de la Marseille antique, de la Marseille grecque, puis romaine. Va se superposer dessus la Marseille médiévale. Et c'est un réseau extrêmement tortueux qui obéit à une topographie qui suit en fait les courbes de niveau de cette colline, puisque Marseille, un petit peu de beaucoup de villes portuaires, sont totalement ceinturées finalement par leurs collines et totalement projetées vers la mer.
Comme des corps de la lumière et la mer bleue dans le lointain, des gens qui font pas de manière, très accueillants, cœur sur la main, toute une foule remuante qui va et vient incessamment. On se bouscule, on rit, on chante, c'est français gai et c'est vivant, et tout ce mouvement joyeux sous un soleil du feu de Dieu, du soleil, du bruit, des chansons. Ça c'est Marseille, ça c'est Marseille, le dimanche à l'Hérault Cabanon. Ça c'est Marseille, ça c'est Marseille, les chichourlettes aux yeux câlins, le bon pastis dès le matin, la bouillabaisse et les oursins.
Quand on voit ce qui est devenu ce quartier aujourd'hui, c'est-à-dire c'est la pente du panier, quoi. C'est pour les gens qui regardent Plus belle la vie. On est sur les bords de Plus belle la vie. Et quand on lit Claude Mackay, ça semble complètement invraisemblable qu'il y a un siècle, ce quartier avait une vie complètement différente. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'en étant ici, dans le petit bar dans lequel on est,
bar du peuple.
Le bar du peuple, bar iconique de Noailles. C'est peut-être là qu'on peut un tout petit peu imaginer ce que seraient les bars dont parle Claude Maquet. Ben évidemment, un siècle après, quoi. On a la télé allumée et pas exactement les mêmes occupations et les mêmes populations, mais quand même.
Valérie Manteau, donc vous êtes romancière et vous bourlinguez aussi entre Paris, Marseille, Istanbul, Kinshasa, Brazzaville. Est-ce que vous avez déjà conseillé à d'autres de lire Claude Maquet, écrivain des marges, bourlingueur, très libre dans son corps, dans sa sexualité, dans son écriture, pour aussi comprendre ce qui s'est joué à Marseille à un moment qui révolue ou qui existe encore peut-être dans ces quartiers où nous sommes en ce moment?
Mais je pense que j'ai beaucoup offert Banjo quand il a été réédité en 2013, d'autant plus que c'était l'année européenne de la culture ici et il y avait beaucoup de néo-marseillais. Et je pense qu'on s'échangeait beaucoup des textes importants pour comprendre un peu cette ville-là et de sortir de Pagnol, même si, évidemment, c'est un auteur important, mais c'est vrai que ça va pas suffire, quoi. Et je crois qu'avec L'homme foudroyé de Sandrars, Banjo, ça fait partie des livres que j'ai beaucoup offert. Et Romancier de Marseille, qui a été publié pour la première fois en français très récemment, cette année, par les éditions Héliotropisme, en plus dans un livre qui est très beau. La couverture graphiquement est magnifique, le livre est très court, très facile à lire, en plus il me semble très étonnamment contemporain. Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit le chef-d'œuvre de Maquet, mais par contre les problématiques sont incroyables quand on lit ça en 2020, 21, 22, en plein mouvement de Black Lives Matter, en pleine toutes ces problématiques d'intersectionnalité dont le nom ne serait évidemment pas venu à l'esprit de Maquet, mais il traite ça, il fait ça de façon extrêmement naturelle, justement sans pédagogie, sans didactisme inutile, quoi. Juste, c'est une fiction inspirée d'un fait réel, par ailleurs, qui se passe à Marseille, qui met en scène tout un tas de personnages qui posent des jalons de toute une représentation de la population ici qui est absente de beaucoup, beaucoup de représentations à l'époque, mais aussi maintenant. Toutes ces invisibles, toutes ces minorités qu'on a un petit peu tendance de temps en temps à considérer comme trop marginales pour qu'on ait le temps de se pencher dessus, quoi. Et lui, il voit juste pas tout le reste. Il regarde que ça. Et ça, c'est pas mal, ouais. C'est une bonne entrée.
Did I lie to me, won't go home. Come, Miss Tallyman, come tally me banana.
Did I lie to me, won't go home.
Come fix your catamati, if you can take bunch banana.
Did I lie to me, won't go home.
Les Africains venaient surtout du Dahomey, du Sénégal et de l'Algérie. Beaucoup étaient dockers. Quelques-uns étaient des marins de métier, durs à la tâche, qui faisaient escale quelques jours entre débarquement et embarquement. D'autres attendaient un bateau. Tous s'entassaient entre le vieux port et la jetée, au milieu des tirs au flanc. Des guides, des souteneurs, des prostituées des deux sexes et des petites frappes de bistrot. Le tout formant un pot-pourri marseillais, grouillant comme un panier de crabes, tirant péniblement sa subsistance du ventre des navires et de leur équipage.
Did I lie to me, won't go home? Did I lie to me, won't go home?
Qu'est-ce que ça représente Marseille pour lui, Mathieu Verneuil?
Il va découvrir une ville populaire, une ville difficile, mais qui va beaucoup le toucher parce qu'il y rencontre des Noirs de tous les pays. Bon, il rencontre une population déjà cosmopolite très variée, pas que des Noirs, bien sûr, des gens de toute l'Europe et du monde entier qui sont là dans le grand brassage du port, mais aussi une ville où se retrouvent aussi bien des marins américains, des Jamaïcains, des gens qui viennent des colonies françaises, on dit souvent des Sénégalais, mais il y a des gens de toute l'Afrique. Les tirailleurs sénégalais de l'armée coloniale étant venus pour la Première Guerre mondiale et beaucoup étant restés sur place. Donc tout ce petit monde se retrouve sur les quais de Marseille. Et je crois que cette rencontre-là, voilà, c'était à la différence de des intellos qu'ils voyaient à Paris. Là, ils rencontraient le peuple, la diversité des peuples noirs et des peuples en général. Et c'est pas facile. C'est-à-dire, c'est que le racisme est là, le racisme des Français envers les Noirs, mais aussi les différences entre les différentes communautés noires où c'est assez drôle comment ils peuvent s'insulter les uns les autres. Voilà, c'est un banjo, c'est un livre de palabres où ils vont discuter, plaisanter, mais aussi s'insulter gentiment sur leurs origines, leur pays. Et hiérarchiser, on découvre que il y a une forme de hiérarchie entre les Américains qui se considèrent bien plus intéressants que les Africains, les Antillais aussi se sentent beaucoup plus forts, le Sénégalais est considéré au plus bas de l'échelle. On voit aussi que un Américain est très reconnu en France par un Français, respecté, alors qu'un Africain sera au contraire méprisé. Donc toute cette étude sociologique finalement des différents milieux noirs va l'intéresser. Il vit cette vie-là, il va même travailler lui-même, parce qu'encore une fois, il se lance dans le roman après la poésie, mais il n'a pas beaucoup d'argent. Et donc il travaille comme docker, il travaille aussi sur la Côte d'Azur, dans les studios à Nice, il va faire des petits boulots, et pendant ce temps, s'inspirer de cette vie et de ses fêtes et de ses rencontres pour écrire, pour préparer Banjo.
De temps en temps, je travaillais de mes mains. Le contremaître sénégalais des dockers noirs était un ami. Et quand il y avait beaucoup de travail facile à faire, comme de décharger des cacahuètes ou des noix de coco, il m'embauchait.
C'est à cette époque-là qu'il écrit aussi Home to Harlem. Alors dans Home to Harlem, donc une fiction qui se passe à Harlem, c'est aussi l'histoire du petit peuple, de dockers et de travailleurs du port, voilà, qui font la fête à Harlem. Donc c'est étonnant de savoir qu'il écrit ce livre quand il est à Marseille. Ce livre qui sera un best-seller et une œuvre majeure de la Harlem Renaissance. Pour nous, Marseillais, on est content de se dire qu'il l'a écrit sur le Vieux-Port. Et donc il y a ce parallèle en fait entre le monde de prolétaires noirs à Marseille et finalement le prolétariat aussi à Harlem qu'il aime beaucoup.
Issa Koné, vous êtes médecin généraliste à Marseille, mais vous êtes aussi lecteur de Claude Macquet. Racontez-moi la première fois que vous avez lu cet auteur.
Il y a fort longtemps que je l'ai lu, puisque je l'ai lu quand j'étais au lycée. Je devais être en seconde, à Bamako, au Mali, et ça s'appelait la dixième. Et donc j'ai lu Banjo. L'impression que j'ai eue, quand j'ai lu ce livre, il n'était pas pareil que les autres, effectivement. La construction du livre n'était pas la même. Ce qui m'avait accroché, on va dire, c'est le rythme dans le livre. Et aussi, il y avait la poésie noire-américaine.
Mais vous êtes arrivé ici à Marseille, quand ?
Moi, je suis arrivé à Marseille en 1971, c'est-à-dire 3 ans après avoir lu Claude Macquet.
Banjo, c'est l'histoire du quartier réservé qui a disparu, mais c'est aussi la confrontation d'un noir américain avec d'autres noirs, on pourrait dire, des Africains, des Jamaïcains. Est-ce que vous avez été sensible à cet homme qui cherche son identité d'homme noir qui arrive ici à Marseille ?
Oui, ça c'est parce que j'ai été confronté à cette problématique. Hein. Et c'est étonnant, on a retrouvé des choses de Banjo, c'est d'une actualité incroyable. Même aujourd'hui, il y a des reparties, des dialogues où, par exemple, il dit « Je vais obliger cette putain de ville à m'écouter. » Et aujourd'hui, effectivement, moi, de par mon travail, je fais des rencontres, des gens incroyables qui ont de la peine à se faire entendre de la ville. Et puis, bien sûr, les confrontations, les frictions qui peuvent exister, elles y sont toujours. C'est banjo, il est d'une actualité incroyable. Et il est très accessible parce que c'est pas le truc académique des frères Karamazov, c'est pas le truc académique de Victor Hugo, de, voilà. Mais ça, je l'avais pas vu quand je l'ai lu. Mais c'est après, on le voit, quoi. On s'est dit peut-être c'est là. Il parle la langue américaine.
Je pris des vacances après la conception et la rédaction de mes nouvelles. Et je me jetais littéralement à l'eau. Tout au bout de la grande jetée de Marseille, je me baignais avec les marins noirs en permission, les dockers et les tirs au flanc. Mais je découvris une baignade bien plus agréable à l'Estac, à un quart d'heure de Marseille en trolley. Et j'y allais le reste de l'été avec un ami américain. L'Estac était autrefois un village de pêcheurs au fond d'une grande baie propre et bien abritée où Cézanne adorait venir peindre. C'est maintenant une horrible ville industrielle où se concentrent fabriques de ciment et de tuileries. On trouve beaucoup d'étrangers dans sa population. Des Polonais, des Russes, des Nord-Africains et même quelques Allemands qui se font passer pour Autrichiens. Ils habitent de sordides cabanes sur la colline, travaillent dans les usines et sur le nouveau canal du Rhône. Toutes les eaux polluées des fabriques de ciment et de tuiles se déversent dans la rade. Mais un peu en dehors de la ville et un peu au large, à l'endroit où le canal s'ouvre sur la baie, il reste une merveilleuse étendue d'eau claire, profonde et belle. C'est là que j'allais chaque jour, tout le reste de l'été, faire la planche pendant des heures, comme porté par les bras du soleil bienfaisant.
Est-ce qu'on peut dire que Claude Maquet à Marseille fait corps avec les corps noirs ? Tous multiples, hommes et femmes.
Alors, faire corps, c'est une bonne expression, puisqu'il parle lui-même de la senteur, de la sueur de ses amis et de lui-même quand ils vont travailler au charbon ou à décharger les caisses des bateaux. Il fait corps aussi dans les activités sexuelles qu'on retrouve dans les rues de ce quartier réservé, dans les bordels. Et on voit bien que les personnages de ses romans, il y a beaucoup d'intrigues amoureuses. Donc le corps, la sensualité sont très présentes. Il n'hésite pas à décrire des histoires d'amour, mais des histoires physiques. L'évocation d'histoires homosexuelles ne lui pose aucun problème, mais pas comme un but en soi, mais comme faisant partie du décor, voilà, effectivement. Lui-même, on sait qu'il avait une sexualité libre. Donc voilà, il est dans les corps, dans le sens où il est proche des travailleurs, il est proche de l'action, il est proche de la même de la... dans les fêtes, les boissons, il décrit les repas. On est presque dans la mastication aussi bien des mots, des idées que de la nourriture, des tripes donc on mange à Marseille par exemple.
Allez banjo, amène-toi voir, on va se faire caguer.
Sana dormi e sai sensi non esti due pe. In cone mai lussule e sana dormi e si hanno incato una vivenda la bucciarie.
Je m'appelle Tatou ou Moussuté, ça dépend des moments, j'ai plusieurs surnoms. Je suis chanteur, auteur, compositeur, comme on dit, de deux groupes principaux. Un qui s'appelle Massilia Sound System, qui est un groupe de reggae qui existe depuis 1984. Et il y a un autre groupe qui s'appelle Moussuté les Jouvins, qui existe depuis 2004, et qui a la particularité d'avoir été créé grâce, ou à cause, je ne sais pas comment on doit le dire, de l'œuvre de Claude Maquet, de Banjo. C'est-à-dire, moi, j'ai créé un groupe de reggae, donc de musique jamaïcaine, alors que j'habitais au Panier. Et puis, un jour, un de mes copains me dit, ah, je viens de lire un livre extraordinaire. C'est un Jamaïcain qui l'a écrit, ça parle de musique, et il me donne Banjo à lire. quand j'ai commencé à lire, j'ai vu tout de suite qu'il y avait cette vision marseillaise. Il n'a pas du tout le fantasme sur Marseille qu'ont les écrivains français de son époque, ce fantasme de porte de l'Empire, de ville un peu, on va dire, interlope, un peu étrangère, à la fois à l'intérieur, à la fois étrangère. Il a épousé Marseille quelque part, donc il a pas du tout cette vision, on va dire, centraliste qu'ont les écrivains français de l'époque sur Marseille. Et bizarrement, puisque je m'intéresse aussi au provençal, puisque je parle provençal, il me renvoie complètement aux auteurs provençaux, de langue provençale, et notamment un auteur qui s'appelle Valère Bernard, qui est un auteur du début du XXe siècle, un peu avant Maquet, et qui a écrit un grand livre qui se passe exactement au même endroit que Banjo, qui s'appelle Bagatouni. Bagatouni, ça veut dire le ghetto, en fait, ça voulait dire les quartiers en face, c'est-à-dire le Panier, Saint-Jean, tous ces quartiers. La fosse, Banjo appelle ça. Et ce livre, qui est un livre en provençal, qui, je crois, n'a jamais été traduit en français, est très comparable à Banjo, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette vision du peuple sans le côté péjoratif, on va dire, le côté de racisme, un peu de classe, et puis sans le côté aussi fantasme sur le peuple, parce qu'il y a ça dans Banjo aussi. Comme c'est en plus, bon, comme je suis musicien, que c'est en plus l'histoire de Banjo et l'histoire d'un musicien, et d'un type qui veut former un groupe, et d'un mec qui amène le jazz quelque part à Marseille, à un moment donné, j'ai voulu fermer les yeux et voir qu'est-ce que ça pouvait être, ce mélange qu'il y avait pu avoir à l'époque. Et je pense que quelque part, ce deuxième groupe, Moussuté les Jouvins, il a été fondé en essayant de chercher le répertoire qui irait avec ça. Qu'est-ce que c'est la rencontre entre la musique noire et Marseille ?
Mathieu Verdeil, après son séjour marseillais, direction le Maroc. Et là, Claude Maquet va écrire des choses sur sa terre d'origine, la Jamaïque. Donc à chaque fois qu'il se décale, il écrit quelque chose avec un regard lointain. Home to Harlem à Marseille et la Jamaïque depuis le Maroc.
Alors effectivement, il y a souvent ce décalage qui lui permet de digérer un peu tout ce qu'il a vécu. Sur le moment, il recueille beaucoup une expérience, des rencontres qu'il va prendre le temps de digérer et ressortir plus tard. Par exemple, Romancier de Marseille, il le termine au Maroc. Il l'écrit aussi en partie à Barcelone. Voilà, et il y a comme ça un souvenir, un décalage. Et il va sortir d'ailleurs plus tard. Bon, d'ailleurs, il va sortir 90 ans plus tard, donc c'est une autre histoire. Il écrit aussi au Maroc, il écrit effectivement sur son enfance en Jamaïque. Donc il y a, effectivement, il écrit pas forcément sur place, bien que ce soit souvent des œuvres très documentaires et documentées de son expérience et qui décrivent de manière brute ce qu'il voit, ce qui se passe. C'est pas toujours au moment où il les vit, voilà, donc il a un peu ce recul.
Est-ce qu'il y a une lecture que vous faites aujourd'hui avec le recul d'un Claude Maquet politique qui incarne des idées alors que d'autres sont beaucoup plus radicaux dans leurs idéaux mais n'ont pas vécu ce qu'il a vécu?
Mais c'est Claude Maquet le politique, c'est pour ça qu'il est très actuel, parce que nous ne sommes plus autant de certitudes. Quand moi je suis arrivé à Marseille, bon, je voulais changer le monde, on pensait que c'était simple de le changer. On avait des brévières selon ceux qui avaient réfléchi dessus, je ne dirais pas de nom. Tandis que Claude Maquet, il ne proposait pas de prêt-à-porter. Dans Banjo, il n'y a jamais de stigmatisation de quelqu'un, d'une attitude, d'une origine, jamais. Il décrit. Et pourtant, si on lit superficiellement, on va penser qu'il y a de la stigmatisation. Il n'y en a pas. Et c'est ça qui est très actuel, c'est-à-dire faire avec les hommes. Il y a ça. Il y a le fait qu'il va vers les autres, il va dans le, bar sénégalais, il est à l'aise avec les Sénégalais. Quand il décrit comment les Sénégalais dansent, il n'y a pas de jugement sur leur manière de danser. Claude Maquet, c'est, aujourd'hui, c'est lui qui... Je pense qu'il faut le faire lire aux jeunes, hein. C'est, s'ils veulent. Il ne donne pas de prêt-à-penser comme certains. Ah oui, Césaire, c'est beau. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu à mon fils, il a eu la patience d'écouter la lettre d'aimé Césaire à Maurice Thorez quand il quitte le Parti communiste. C'est vrai, c'est beau, mais bon, c'est... l'approche de Claude Maquet, c'est meilleure de ce point de vue-là.
Arnaud Bouc, pourquoi est-ce que Claude Maquet n'a pas l'aura, finalement, qu'il mériterait on le redécouvre à la faveur de vos publications, mais il y a quand même comme un trou. On pense que voilà, Bon Jovi 1929, publié en France, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Il est republié en 2001, et après, quasiment rien.
Alors il y a peut-être cette radicalité qui dérange, hein, et qui j'espère aujourd'hui va réussir à un petit peu à s'affirmer, parce que ces récits explorent, on le voit, on le découvre au fur et à mesure des publications, explorent des marges qui sont à chaque fois plus tabous, hein. Après l'exploration du coup du prolétariat noir en Europe, c'est-à-dire un regard qui dérange beaucoup les sociétés occidentales encore empreintes de colonialisme. Il y a l'exploration du tabou sexuel, hein. Claude Maquet lui-même était bisexuel et il explore dans Romancier de Marseille toutes les marges sexuelles possibles. Il y a aussi l'exploration du handicap, hein, puisqu'il place au centre de la fiction un héros handicapé et clopé, hein, chose qui à l'époque n'était jamais vue. Donc il y a cette radicalité qui a souvent dérangé les éditeurs. On a plusieurs lettres de refus des éditeurs dans les années 30. Il y a eu aussi peut-être une histoire de traduction. Alors, parce que la langue de Claude Maquet est très très compliquée. Elle pose un problème de réel. Elle est ancrée dans une réalité qui est l'Europe, mettons Marseille par exemple, hein. Et sa langue est influencée par le parler noir américain, mais aussi par son anglais à lui, qui est un anglais jamaïcain, mais aussi par le dialecte jamaïcain. Voilà, et tout ça se retrouve dans un livre sur Marseille.
Kingston, New York, Londres, Moscou, Berlin, Paris, Marseille, Tanger, et retour. Voilà le périple de Claude Maquet, qui va finir ruiné et qui va se convertir au catholicisme. Comment est-ce que vous voyez cette pirouette du destin d'un homme qui était libre dans sa foi, dans son corps, dans ses idées, et qui se convertit sur le tard de sa vie?
Maquet, c'est un libre penseur. Il a toujours été, il s'est pas donné ni de frontières, ni de limites dans ses rencontres et dans ses voyages. Bien sûr, il a milité pour, on va dire, la cause noire, mais il avait beaucoup d'amis blancs et il n'était pas du tout extrémiste et il était très ouvert. Donc il se rattache aussi à chaque fois à ses rencontres et à ce qui peut l'aider au moment où ça l'aide. C'est-à-dire que si il rencontre un mécène qui peut l'aider, eh ben il va, parce qu'il faut qu'il survive et il faut qu'il puisse se nourrir de nouvelles idées. Donc voilà, étant ouvert, il peut s'alimenter de toutes ces nouvelles idées et s'en emparer. Donc si à une époque il s'intéresse au communisme, un peu plus tard, il découvre qu'il y a des limites au communisme et il va s'en détacher. S'il est bien, il passe un bon moment à Paris dans les cafés, très vite, il déchante et il passe à autre chose, à une vie plus populaire sur le port de Marseille. Plus tard, il va au Maroc et dans une autre ambiance, plus proche de l'Afrique, avec des nouvelles expériences, des nouvelles relations, même la tradition arabe. Voilà, et ça l'intéresse aussi. Il rentre aux États-Unis, il est désœuvré, il a des problèmes financiers. Alors il va quand même travailler pendant une dizaine d'années dans des revues qui vont parler de Harlem. Il va continuer à côtoyer les écrivains, le milieu littéraire. Mais il a du mal à publier, il a de moins en moins d'argent, il est toujours malade. Et donc, ces rencontres vont l'amener à se rapprocher du catholicisme, parce que des catholiques vont pouvoir l'aider sur la fin de sa vie. Et lui, c'est presque une nouvelle aventure, quoi. Et voilà, une nouvelle rencontre, une nouvelle aventure. Pourquoi pas changer? Il a pas de limite. Et il est prêt à tout expérimenter. Donc, à la fin, c'est le catholicisme. Pourquoi pas? Il est ouvert à tout.
C'est quoi comme figure pour vous, Claude Maquet? C'est un grand frère? C'est une figure tutélaire? C'est quoi?
Une figure tutélaire. C'est un passeur. Une anecdote, mais très intéressante, qui révèle Maquet. Quand j'avais organisé mon exposition, l'exposition a eu lieu au MICEM qui était alors en gestation. Et il y a une dame, de temps en temps je servais aussi des guides, il y a une dame qui est une Normande, elle me dit mais c'est quoi? Mais comment j'ai l'espèce d'expliquer pourquoi cet auteur, pourquoi Maquet, etc. La dame me répond, mais moi j'ai envie de connaître Marseille d'Espagnol, c'est pas Marseille d'un Jamaïcain. Et j'ai dit, justement, vous savez, en 1929, quand le livre Banjo sort, la même année, c'est le grand succès de Marius, d'Espagnol, mais c'est l'autre côte, en face du bar de la Marine, c'est là-bas. Donc, si vous voulez connaître Marseille de Pagnol, c'est de l'autre côté.
C'était l'autre rive.
C'était un Marseille monochrome, mais ici, c'était un Marseille multicolore et avec tout ce qu'il pourrait représenter comme modernité pour Maquet. Et c'est là qu'on découvre ces œuvres, aussi bien Romance de Marseille et Banjo, on voit comment Maquet, il est très, très. Très contemporain, c'est notre contemporain en fait.
Claude Maquet, vagabond et poète. Avec la romancière Valérie Manteau, Mathieu Verdeil, réalisateur du film De Harlem à Marseille, le journaliste Armando Cox, Renaud Bouc, directeur des éditions Héliotropisme, le musicien Moussuté, Emmanuel Logier, responsable de la médiathèque du patrimoine du musée d'histoire de Marseille, et le docteur Issa Connet. Extrait de l'autobiographie Un sacré bout de chemin et du roman Banjo, dit par Chris Nyanguna. Toute une vie, coordination Anaïs Kien, attaché de production Sylvia Favre, réalisation François Test, une émission proposée par Michel Pomared. Armando Cox, on a continué à marcher le long du quai, on a pris à droite, et là on est dans un passage qui s'appelle comment?
C'est le passage Claude Maquet, inauguré en 2015. Les romans Banjo, ça se passe exactement dans ces coins-là. Ce soit un passage, c'est aussi très symbolique, c'est vraiment, ça représente très bien Marseille. Ceux qui aiment Marseille, ou qui ont écrit de belles choses sur Marseille, c'est souvent des gens qui viennent de gens venant du large, comme Maquet, comme Macorlan, comme Sandras. Donc, cette ville appartient à ceux qui viennent de large, en fait. Et Maquet, c'est exactement ça.